C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée.
Bonjour, aujourd'hui dans votre magazine, nous allons parler de l'électro-hypersensibilité. Rencontre avec Christophe Mergaud, venu donner des conférences dans la région à propos du compteur Linky, de la 5G, du numérique, de façon générale, de tout ce qui peut rendre la vie très compliquée pour les électro-hypersensibles. Je vous propose de faire connaissance avec Christophe Mergaud qui répondait à l'invitation du collectif ACAD, anti-compteur communicant Artois 62 d'Ouézi 59, et du collectif Stop Linky et 5G du pays de Condé. Tout de suite, l'hypersensibilité électrique, on en parle avec Christophe Mergaud. Christophe, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, on se voit pour la première fois. Nous sommes à Le Forêt, juste à côté de Douai. Et vous avez fait pas mal de routes pour venir jusqu'ici.
Oui, ben, je suis parti hier après-midi de Rennes. Donc, et après 5 heures de route et d'autoroute, donc je suis arrivé à Quéry-les-Mottes, donc chez Pierre qui m'a gentiment invité.
Pierre Rose, voilà, pour ne rien cacher. Alors, l'objet de cette invitation, c'est quoi ?
L'objet, c'est d'évoquer en fait un sujet dont on a parlé il y a quelque temps et qui a été éclipsé par d'autres sujets, donc à savoir les problèmes de santé liés aux ondes qui sont générées par tout un tas d'environnements, à savoir les ondes issues des antennes relais, de la téléphonie mobile, mais également les ondes issues des systèmes communicants comme les compteur Linky ou alors les ondes qu'on peut avoir soi-même chez soi, donc avec une box, avec une console de jeu, voilà. Donc c'est essentiellement, je vais axer en fait mon échange sur la partie santé et puis introduire quelques idées, qui sont peut-être pas dans, on va dire, des idées de consensus aujourd'hui.
Alors, vous l'évoquiez, c'est vrai que côté santé publique, actuellement, il y a une grosse focale qui a été mise sur, évidemment, l'épidémie de coronavirus. Néanmoins, ce problème avait déjà été évoqué au cours des années passées, notamment au moment de déploiement de nouvelles antennes ou alors d'équipements d'infrastructures pour amener de l'énergie, l'électricité, en l'occurrence, depuis des centrales. Vous avez l'impression que finalement, ça a bénéficié à la cause, contre finalement cette sensibilité, le fait que le regard soit attiré plus vers la question de l'épidémie que sur ces questions de santé publique qui sont assez invisibles.
Oui, alors votre remarque, votre question, en fait, elle me suggère de plusieurs réponses, en fait. La première réponse, c'est qu'on est dans une société où on est dans la société, je dirais, un peu du zapping, c'est-à-dire que un sujet chasse l'autre et je dirais, on a une amnésie assez surdéveloppée, quoi. Donc, le problème de santé, c'est un problème central. Bon, on a pu, comme vous l'avez dit, on a pu en prendre conscience avec les 2 ans de quasi-confinement et d'arrêt de l'économie. Et c'est le sujet, pour moi, c'est le sujet central, à savoir que le jour où on perd la santé, où la santé se détériore, c'est toute la vie, en fait, qui peut basculer, quoi. Et ça, je dirais, il faut bien l'avoir en tête et en conscience. Et se rendre compte que les environnements hyperconnectés qu'on nous impose de manière très subtile et parfois, je dirais, un peu démoniaque, en fait, nous conduisent à terme à détériorer très rapidement, en fait, notre santé. Si on s'intéresse au sujet de manière un peu plus, je dirais, scientifique, Hein, si on regarde les études qui ont été publiées, donc, que ce soit des études essentiellement étrangères, parce qu'en France, il y a belle lurette qu'on fait plus d'études sur les ondes, sur l'impact des ondes. La dernière, elle remonte à 2004, hein, donc ça va faire pratiquement 20 ans.
Quand elles sont menées par qui, ces études?
Elles sont menées par des chercheurs. Hein, donc c'est généralement des gens qui sont issus du monde universitaire, donc, ou du monde qui travaille dans le médical. Après, le point important, il faut s'intéresser à qui finance l'étude, quoi. Parce qu'en fait, quand on regarde les résultats que les études, on va dire, génèrent, on s'aperçoit que quand les industries, on va dire, financent les études, en fait, elles sont à 70%, elles sont 70-80%, elles sont toujours favorables. Alors que quand ces études sont menées par des scientifiques indépendants ou financées par des fonds publics et rarement par des fonds privés, eh bien, cette proportion s'inverse, quoi. Et là, il faut avoir, une mémoire un peu reptilienne. Il faut se rappeler certains sujets qui sont un peu anciens, qu'on a peut-être un peu oubliés. Je parlais du sujet de l'amiante, par exemple, ou du sujet du tabac, ou même de l'industrie de l'alcool. En fait, on s'aperçoit que certains modèles ont la vie dure, à savoir que l'industrie de l'amiante a élaboré toute une stratégie et tout un tas de techniques, en fait, qui sont aujourd'hui reprises par l'industrie, je dirais, du monde de la téléphonie et des ondes. Et je dirais, en particulier en France, on a, il ne faut jamais l'oublier, on a quatre opérateurs de téléphonie qui constituent un lobby extrêmement puissant. Et en fait, on est complètement dans l'omerta et dans le déni. Et ça, j'aurai l'occasion de l'expliquer lors de l'intervention de ce soir, quoi.
Alors, d'autant plus, et on peut le signaler, hein, que ces opérateurs sont également propriétaires de médias et de gros médias. Donc, en termes de médiatisation de l'électrosensibilité, c'est pas là où on va mettre l'accent sur ces médias-là, en tout cas. Vous, votre vie, elle a basculé à un moment. Vous disiez, il y a un moment où votre vie, elle bascule.
Je vais faire une petite pause sur mon cas personnel. Donc, en fait, moi, je suis de formation scientifique, hein, donc des études supérieures en informatique. Et donc, j'ai occupé des fonctions de responsabilité de direction en matière de système d'information. Hein, donc, j'étais responsable informatique, directeur informatique dans des sociétés moyennes et grosses entreprises, hein, jusqu'à 20 000 personnes. Et en fait, ma vie, elle a basculé le jour où je suis tombé malade, en fait. Bon, sachant qu'avant ça, j'ai eu des petits signes qui m'ont alerté. Je le dis à titre anecdotique, mais dans le cadre de mes activités, j'ai été amené un jour à modifier en fait tout un système de téléphonie au sein d'une entreprise et en fait de refaire tout le système de téléphonie d'une télévente, quoi. Et donc j'avais équipé donc toutes les télévendeuses et télévendeurs de casques sans fil, hein, parce qu'ils trouvaient ça pratique, tout le monde trouvait ça bien. Et puis, quelques semaines après avoir fait cet équipement, en fait, il y a une des télévendeuses qui est venue vers moi et qui m'a dit « Écoute, j'ai un problème avec ton casque, il me donne mal à la tête, quoi. »
Ensuite, vous avez, vous, été également confronté à cette maladie, donc l'électrosensibilité. Est-ce que votre activité professionnelle, le fait d'être encadré finalement par ces appareils, hein, électroniques de communication, ça a épuisé peut-être un stock qu'on a de capacité à résister aux ondes? Et est-ce que vous avez franchi pour vous un quota, une ligne rouge que votre organisme n'était pas capable d'encaisser?
Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, l'électro-hypersensibilité, en fait, c'est pas une maladie, hein. On peut tous devenir potentiellement électro-hypersensible. En fait, on a tous un système immunitaire, en fait, qui fait que notre organisme, il est toujours en train de combattre, hein, les microbes, les virus, et également les environnements, les champs électromagnétiques, sachant que l'organisme en lui-même, nous sommes également une pile, quoi. Donc on est soumis, quand on est soumis à des ondes artificielles, en fait, notre organisme, il réagit. Bon, on n'en a pas forcément conscience, mais la mécanique, elle travaille. Et puis en fait, c'est comme un réservoir de résistance qui finit en fait par se vider. Et puis quand le réservoir est vide, en fait, vous franchissez un seuil où vous devenez hypersensible, c'est-à-dire les champs électriques, les champs électromagnétiques vont venir vous affecter dans votre quotidien. Ça se traduit par différents symptômes, hein, c'est-à-dire que généralement, enfin, dans mon cas, ça a commencé par des insomnies, des maux de tête, des acouphènes, des choses comme ça. Alors j'ai commencé à en parler à mon médecin généraliste, quoi, qui m'a dit, bon, ça peut arriver, c'est les maux de tête, qui prescrit, on va dire, des médicaments standards, quoi. Et puis, moi, je suis pas très médicament, mais bon, en fait, ça n'agissait pas, quoi. J'avais toujours ces maux de tête. Bon, ça a été le premier élément. Et puis, en fait, ce qui m'est arrivé, donc c'est à l'âge de 47 ans, on m'a découvert un diabète de type 1, donc c'est-à-dire un diabète insulino-dépendant. Hein. Donc il faut savoir que c'est un diabète qui est relativement rare et peu fréquent. Ça touche à peu près 5% des gens qui ont le diabète. Et puis généralement, c'est un diabète de type juvénile, c'est-à-dire ça touche plutôt les jeunes enfants ou alors les adolescents ou jeunes adultes. Et avoir ce type de diabète à 47 ans, c'est extrêmement rare, quoi. J'ai cherché à comprendre et à savoir qu'est-ce qui avait pu déclencher ce diabète. Et là, j'ai fait des recherches. Je ne compte plus les heures que j'ai passées sur le sujet, mais j'ai découvert qu'en fait, une des causes du déclenchement du diabète, en fait, pouvait être, hein, je vais rester prudent, mais il pouvait être en fait une surexposition aux ondes et aux champs électromagnétiques. Et là, je me suis rappelé de mon passé, on va dire, de responsable de système d'information, à savoir que pendant 4 ans, je faisais une heure de route tous les soirs dans ma voiture et je passais une heure au téléphone mobile à faire le point, à échanger donc avec des responsables, des cadres, des vendeurs sur le terrain. Voilà. J'ai l'intime conviction que d'avoir téléphoné, ça représente plusieurs centaines d'heures de téléphonie dans une voiture, que ça a déclenché, a perturbé, je dirais, gravement mon organisme. Et donc, a déclenché, en fait, ce diabète, quoi.
Le diabète, on peut le prendre en charge, mais l'hypersensibilité aux champs électriques et électrostatiques, électromagnétiques également, est-ce qu'on peut le soigner ou pas du tout? Ou après, il faut apprendre à vivre avec?
Alors, il y a différents seuils, on va dire, d'électro-hypersensibilité, sachant qu'il n'y a pas de médicament, quoi, pour soigner ça. En fait, la seule solution, c'est la fuite. C'est-à-dire, il faut s'éloigner des ondes. Il faut éviter de s'y exposer. Ça commence par déjà analyser son lieu de vie et de se débarrasser de tous les systèmes, je dis bien tous les systèmes qui sont générateurs d'ondes. Alors ça passe par le four à micro-ondes, qui est un objet extrêmement dangereux et qui devrait être interdit de commercialisation. Ça passe par la suppression de tout ce qui est téléphone sans fil, donc notamment les DECT, y compris les systèmes dits éco-DECT. Hein.
C'est quoi tout ça, les DECT par exemple?
Et ben, ce sont les téléphones sans fil qui sont raccordés sur les box internet. On trouve ça très pratique parce que voilà, il suffit de décrocher le combiné et puis on peut être à plusieurs mètres, ouais, on n'a pas de fil, c'est la liberté, etc. Seulement, faut savoir que c'est comme si on avait une antenne relais chez soi, quoi. C'est juste un poison à la maison. Et puis, il faut se débarrasser également de tous ces... alors, les enfants ne vont pas être contents, mais tout ce qui est console de jeu et des choses comme ça, parce que ça repose également sur des ondes Wi-Fi. Hein, donc, il faut désactiver systématiquement, je dirais, la Wi-Fi chez soi. Il faut acquérir une hygiène de vie, je dirais, par rapport aux ondes. C'est-à-dire il faut les supprimer partout où on peut et puis s'en éloigner.
Est-ce qu'une sobriété avant de tout éliminer, ça, c'est suffisant que de se dire « je vais faire attention, je vais limiter finalement » plutôt la sobriété que l'arrêt total de toutes ces ondes?
Mon expérience et mes expériences, à savoir que j'ai aussi, enfin je fréquente également beaucoup de personnes qui sont électro-hypersensibles, la diversité de cas et de situations fait que le seul véritable remède, c'est d'arrêter. C'est l'arrêt. C'est pas d'entretenir à petite dose parce qu'en fait c'est un poison. Hein. C'est-à-dire qu'un poison, il faut élargir, je dirais, la définition que nous en donnent les toxicologues. À savoir, les toxicologues nous disent que le poison c'est la dose. En fait, non. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'en fait il y a effectivement la dose, mais il y a également à prendre en compte la durée d'exposition. Et il y a également à prendre en compte l'élément humain parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport aux ondes, on est tous différents. Si vous, vous pouvez courir pendant 10 minutes, eh bien votre voisin, il va peut-être pouvoir courir que pendant 5 minutes. Donc si vous vous exposez, je vais prendre une analogie, si vous vous exposez au soleil pendant 3 heures, vous n'aurez peut-être pas de coup de soleil. Par contre, votre enfant peut aussi s'exposer, ou votre femme 10 heures, et puis elle va avoir un coup de soleil, quoi. Donc on n'est pas tous... et puis si vous avez, de la chance, au bout de 10 ans d'exposition, vous n'aurez rien. Et puis peut-être que au bout de 10 ans d'exposition, la même personne, elle, va développer un mélanome, un cancer, quoi. Donc il faut bien prendre en compte ce facteur-là, ce facteur humain, à savoir qu'on est tous différents. Hein, donc c'est pour ça que je dis que c'est un véritable problème de santé publique. Et c'est là où les politiques doivent être courageux et doivent s'emparer de ce sujet, hein, et en fait prendre des positions et prendre aussi des lois, parce que ça doit passer par la loi. Alors ça avait commencé avec une première loi en 2015, mais c'est pas suffisant, hein, la fameuse loi Abeille. Il faut aller bien au-delà.
Tant qu'on n'est pas malade, on ne peut pas connaître son seuil de tolérance. C'est quand les symptômes arrivent, on peut déterminer la capacité à chacun d'encaisser plus ou moins des ondes.
Alors, la difficulté, en fait, l'énorme difficulté, hein, et c'est par là que je dirais que commence un peu le scandale, c'est que le sujet des ondes a été abordé par l'État d'une certaine façon, que j'évoquerai également ce soir. Donc, à savoir qu'en fait, on a clairement décidé de ne pas former le premier contact que l'on a avec la santé, à savoir le médecin généraliste. Si vous interrogez un médecin généraliste par rapport à un problème de maux de tête ou un problème d'acouphène ou des choses comme ça, il ne va pas vous interroger en vous disant « chez vous, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez un four à micro-ondes? Est-ce que vous utilisez un téléphone sans fil, etc. etc. ?» Parce qu'en fait, il a déjà à la base, il n'est pas formé, donc il ne sait pas. Il est comme son patient, il est au même niveau, dans l'immense majorité des cas. Dans d'autres situations, il va répéter ce qu'on lui a dit quand il a fait sa formation, à savoir que le lien de causalité n'est pas avéré, donc les études ne démontrent pas que, etc. Alors que ça, tout ça, c'est totalement faux. C'est une vision, on va dire, qui est typiquement négationniste, je dirais, du problème. Et dans une autre situation, si vous-même vous avez fait vos propres recherches et vous lui apportez des éléments, il peut s'intéresser au sujet. Et puis, dans certains cas, puisque ça existe, même s'ils ne sont pas nombreux, il y a des médecins qui commencent à prendre en compte justement l'environnement, et l'environnement au sens large, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte l'environnement de vie, c'est-à-dire votre lieu d'habitation, et puis il va prendre également votre environnement au niveau du travail, parce qu'il ne faut pas oublier que il y a les ondes qu'on peut avoir dans son lieu de vie, mais il y a également les ondes qu'on peut subir, je dirais, également sur son lieu de travail. Donc il faut... Et puis les ondes aussi qu'on peut avoir dans sa voiture ou dans les moyens de transport, puisque maintenant, tous les opérateurs de transport ont la lumineuse idée d'aller nous mettre des ondes partout. On a maintenant des ondes Wi-Fi dans les bureaux de poste, dans les supermarchés, dans la mairie, y en a partout. Donc c'est de plus en plus difficile d'y échapper, quoi. Donc,
les ondes, ce n'est pas uniquement finalement les appareils qui servent à communiquer. J'ai vu un documentaire il y a peu qui était présenté au FIGRA sur ces agriculteurs qui ont engagé un procès à RTE parce que là, cette fois-ci, c'était les lignes de tension qui généraient des ondes qui ont atteint les éleveurs dans leur santé, mais également parfois le bétail.
Je vais faire un petit focus sur l'histoire des ondes. Là aussi, j'aborde ça ce soir. En fait, quand on parle des ondes, on peut faire le distinguo entre ce qu'on appelle les ondes basse fréquence, c'est-à-dire, pour simplifier, c'est ce qui concerne, on va dire, le courant électrique et également le système Linky. Donc ça, c'est le système qui génère des basses fréquences, des ondes basse fréquence, et puis les ondes dites haute fréquence. Donc c'est tout ce qui concerne la téléphonie, le Wi-Fi, le Bluetooth, le DECT, j'en ai parlé, la 2, 3, 4, 5G, voilà. Ça, ce sont des ondes dites haute fréquence. Donc sachant que les problèmes de santé que ça engendre sont identiques, hein. Le poison, je dirais qu'il soit basse fréquence ou haute fréquence, il engendre les mêmes dégâts sur la santé. Alors pour l'histoire des agriculteurs, en fait, je connais plusieurs agriculteurs, dont un qui a perdu son élevage de lapins suite à une implantation d'antenne relais. Je connais des agriculteurs qui ont perdu plusieurs centaines de vaches suite à une implantation de, d'éoliennes, d'antennes relais ou de, effectivement de lignes haute tension, c'est toujours très très compliqué de démontrer le lien de causalité. C'est toujours la même chose, hein. Donc c'est jamais simple, je dirais, d'obtenir une reconnaissance par les officiels, mais en fait le lien de causalité il est établi. Le plus bel exemple que je pourrais donner, c'est en Loire-Atlantique, donc c'est à Nozay. En fait, c'est une école où en fait il y a eu 14 enfants qui sont morts qui sont décédés d'un cancer, d'un gliome au cerveau, tout ça parce qu'en fait il y avait des lignes électriques, des câbles électriques qui étaient enterrés et qui passaient sous l'école, quoi. Voilà. Eh bien, les parents qui ont perdu leurs enfants, ils n'ont toujours pas eu la reconnaissance de l'État. Il n'y a toujours pas eu de... je ne parle même pas de dédommagement ou de prise en compte, quoi. Donc, voilà. En France, on est toujours dans le déni et dans la non-reconnaissance des problèmes engendrés par les ondes. Mais les agriculteurs sont effectivement ceux qui peuvent observer, je dirais, ça sur leurs animaux, sachant qu'un animal, ça n'a pas de psychologie. Hein, enfin, ou alors elle est encore méconnue, parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans la manière dont l'État, on va dire, prend en compte les ondes, c'est-à-dire on considère que les électro-hypersensibles ont des problèmes psychologiques, quoi. Voilà. Sauf que bon, bah, les problèmes psychologiques pour une vache ou pour un ovin ou un caprin, c'est un peu plus compliqué à démontrer, quoi. Une vache qui refuse de rentrer dans le labo de traite ou qui engendre en fait un lait qui est impropre à la consommation parce que trop chargé en globules blancs et donc le lait devient totalement inconsommable. Tout ça parce qu'il y a eu une ligne à haute tension ou une antenne relais, voire une éolienne ou un parc éolien qui s'est installé et qui rend le lait impropre ou même qui va jusqu'à tuer les animaux. Je connais un agriculteur dans le Morbihan qui a perdu 200 vaches. Je n'ai pas amené les photos là, mais c'est absolument ignoble, quoi, parce que les animaux meurent dans d'atroces souffrances, quoi. Donc le problème des ondes, il touche toutes les formes de vivants. Hein. Il ne touche pas que les êtres humains, il touche également les animaux, voire même également le végétal.
La suite de notre entretien avec Christophe Mergaud, c'est dans un instant.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensé. All my body's undulating, back and forth, but it's too late. There's no cure, no sedating. All this pain we're generating, this prolonged, insane, grotesque thing that we wrongly have been naming love. This ain't love, no. Pretty soon I will be feeding on the taps, your little feet in silver boots, snake while my fleeing town. And I can't get around to being not surprised by memories speeding on the road on which we're bleeding low. And dogs and lightning strikes my heart and sheds some light on to the fact that it ain't so frightening how there hasn't been your pretty side in so much time. My teeth are widening from the blood we shed while biting love. Honey, this ain't love. Bye. Radio Scarpe Sensé, la puce à l'oreille, Hervé Dujardin.
Et je vous propose de retrouver la suite et la fin de notre entretien avec Christophe Mergot. Christophe Mergot atteint d'hyperélectrosensibilité, venu sensibiliser sur les nuisances des compteurs Linky, de la 4G, de façon générale, de tout ce qui est antenne, champ électrique et diffusion des courants. On a parlé de diverses sources de pollution. Est-ce que la question de la puissance de la source émettrice a un impact sur finalement les symptômes et les risques encourus par les personnes à proximité, Christophe?
Oui, évidemment que ça a un lien. Mais derrière votre question, il y a peut-être une confusion qu'il ne faut pas avoir en tête. C'est-à-dire que, et c'est là où je reviens sur la définition du poison, une très faible dose, une très faible puissance dans la durée peut faire autant de dégâts qu'une puissance très forte sur un moment court, quoi. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec la définition des toxicologues qui nous dit que c'est la dose qui fait le poison. Non, c'est pas simplement le paramètre dose ou le paramètre puissance qu'il faut prendre en compte. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les autres paramètres qui sont très importants, à savoir le paramètre temps, c'est-à-dire la durée d'exposition, et puis la capacité de l'humain à résister à cette exposition. Parce qu'encore une fois, on est tous différents, c'est-à-dire que c'est un peu l'histoire du match de boxe, hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir résister à trois uppercuts, et puis le quatrième, bah, vous êtes fatal. Et puis pour une autre personne, bah, dès le premier uppercut, il va être KO, quoi. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut aborder les choses, quoi.
Si je vous parlais de la puissance, c'est parce que c'est également quelque chose que l'on entend de la part des opérateurs qui actuellement sont en train de mailler le territoire en 5G en disant oui, on met plus d'antennes, mais c'est des antennes de moindre puissance que celles des générations précédentes.
Alors, ça, c'est une escroquerie, quoi. Cet argument qui est de dire on est obligé d'avoir beaucoup de puissance parce qu'on a peu d'antennes, on va mettre plus d'antennes et ce sera moins puissant, c'est totalement faux. Je peux vous dire que j'ai mené des campagnes de mesure, enfin en Bretagne, j'en fais régulièrement, j'ai toujours mon appareil avec moi. Je peux vous dire que, je vais vous raconter une anecdote très, très précise sur la ville de Rennes, c'est totalement faux. Les puissances vont sans cesse en augmentation parce qu'il faut bien en compte qu'on avait on a un niveau de puissance pour la 2G, mais pour la 3G, on a rajouté encore un niveau de puissance pour le signal 3G. Et un troisième niveau pour la 4G, et pour la 5G, on en rajoute encore. Ça ne baisse pas. C'est-à-dire que si on disait on met la 5G mais on supprime tout le reste. Bon, peut-être que là, il y aurait moins de puissance. Mais c'est pas le cas. On ne fait qu'ajouter. Donc, l'argument qui est de dire on va mettre plus d'antennes, ça sera moins puissant, c'est juste un argument, c'est une escroquerie. C'est totalement faux. Et ça ne correspond absolument pas à la réalité quand on fait des mesures sur le terrain. On s'aperçoit. Je peux vous dire que dernièrement, enfin il y a 48 heures, j'étais dans un établissement qui faisait une étude sur le sommeil. Il y avait une antenne relais à 50 mètres. À l'intérieur du bâtiment, il y avait des pics d'exposition qui dépassaient 10 voltmètres. Je suis resté très peu de temps dans le bâtiment. J'ai dit à mes interlocuteurs, je ne peux pas rester. J'étais hyper mal, je commençais à avoir mal au crâne. Au bout de 10 minutes, c'était insupportable pour moi. Cet argument de dire on multiplie les antennes, il y aura moins de puissance, il est totalement faux, c'est pas la réalité. Et en plus, je vais rajouter un élément, c'est l'argument des mesures qui est pratiqué par l'organisme qui s'appelle l'ANFR, hein, donc la mesure des puissances. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le protocole de mesure, en fait, pour la 5G, on a modifié la manière dont on appréciait la mesure. C'est-à-dire que, pour vous expliquer simplement, la mesure du champ électromagnétique, donc sur une antenne 2, 3, 4G, en fait, c'est une mesure globale, c'est-à-dire que c'est une mesure qui se fait dans l'espace. Bon. Dans la 5G, en fait, l'AFR a considéré que, étant donné que le signal de 5G, c'est un signal qui est très directif, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une communication très directe entre l'antenne et l'équipement, hein, par exemple le smartphone. Donc, en fait, c'est comme si vous aviez un fusil à lunettes qui vous pointe dessus. Donc, pendant une durée extrêmement courte, extrêmement faible, le protocole du mesure fait que, en fait, on divise. Écoutez bien, c'est hallucinant. On divise par plus de 20 la valeur mesurée. C'est-à-dire on atténue le signal de 13,5 décibels. Et ça correspond à une atténuation de plus de 20 fois de la mesure. Donc les mesures sont totalement faussées. C'est totalement faussé. Les mesures faites en 5G, les mesures faites au niveau officiel sont totalement faussées.
Comment on fait ? On part vivre dans une zone blanche, faut tous se mettre dans une grotte, faut revenir, on se souvient de l'expression des Amish qui a fait beaucoup parler. Là aussi, on nous parle, surtout actuellement, d'indépendance énergétique. Donc on sait qu'on va devoir peut-être rééquiper le territoire. Vous ne dites pas d'éoliennes, donc on va faire du nucléaire, donc on va mettre des lignes de tension. Et puis voilà, comment on fait pour trouver un modèle ? Est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'il est inventé ? Est-ce qu'il faut arrêter tout ça ? Faut interdire le progrès et à quel prix ?
Ah, ça c'est une question centrale et fondamentale. Il faut arrêter de penser que le toujours plus, c'est sans fin, quoi. Il faut véritablement engager un processus qui va nous conduire vers la sobriété et pas le toujours plus, quoi. Malheureusement, je prends l'exemple du système Linky. Le système Linky, pour le faire fonctionner en consommation d'énergie, c'est une demi-tranche de centrale nucléaire de plus. Donc, la meilleure économie qu'on fait, c'est celle qui fait qu'on arrête de consommer. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait l'inverse. On ne fait que rajouter des systèmes qui engendrent des consommations, des surconsommations. Donc, là, il y a une véritable, révolution des mentalités à conduire. Il faut arrêter de penser que le toujours plus signifie le progrès et le mieux. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Il faut aller vers la sobriété, quoi. Et quant à cette notion de progrès, eh bien, il existe des technologies. Je prends par exemple la fibre optique, hein, c'est une onde lumineuse. Bah, il n'y a strictement aucun danger, quoi. Il n'y a pas de champ électromagnétique, il n'y a rien. Donc, il existe des solutions qui permettent d'être dans un monde, qui sera déjà pas nocif pour la santé, ce qui est déjà quand même énorme, et qui sera beaucoup moins énergétique ou énergivore d'un point de vue consommation, quoi. Ça passe par des choix politiques.
Alors, c'est-à-dire que du côté de la communication, uniquement ça, favoriser finalement de communiquer quand on est immobile. Il faut arrêter de dire stop à la mobilité à tout prix, à l'accès en mobilité, parce que c'est ça qui génère une sur-offre, une sur-proposition. Il y a également des territoires qui se plaignent de ne pas avoir la 4G actuellement chez eux. Il faut leur dire, est-ce que c'est vraiment utile ?
Ouais. Alors, je vais prendre un exemple. Hein. Je vais prendre l'exemple de la voiture. Dans la voiture, le code de la route nous dit que c'est interdit de téléphoner. Vous devez le conducteur, il doit avoir son attention et les deux mains sur le volant totalement fixées à l'opération de conduite. Aujourd'hui, pourquoi on va mettre des systèmes Wi-Fi ou Bluetooth dans les bagnoles pour pouvoir téléphoner en main libre, sachant que c'est démontré qu'à partir du moment où vous êtes en conversation téléphonique, Votre champ visuel se réduit, votre niveau d'attention se réduit et vous augmentez d'un facteur N le risque d'accident. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Il faut arrêter ce genre de... On n'est pas cohérent, là. Il faut arrêter ça. Est-ce que il faut le Bluetooth pour que le gamin s'empoisonne avec sa console de jeu, pour que le conducteur soit tranquille, etc. Quand on était gamin, il y a quelques dizaines d'années, pour certains d'entre nous, quand on était dans la voiture de nos parents, on pouvait avoir un livre, on pouvait... mais on n'avait pas tous ces moyens-là. Et je veux dire, on était heureux, quoi.
Donc, moins de mobilité pour tout ce qui est communication, du filaire quand on le peut au maximum. La question de l'énergie, quand même, parce que l'énergie, il faut la fournir. On la fabrique comment et on la transporte comment pour ne pas générer de nuisances ?
Alors, l'aspect énergétique, en fait, si on regarde notre modèle français, en fait, le modèle français, c'est un modèle qui est extrêmement centralisateur. En fait, ce modèle, il doit être totalement réformé, à savoir qu'il faut aller vers une certaine autonomie, faire que les habitations et les bâtiments deviennent également... ça existe dans d'autres pays, hein, ça existe en Allemagne. des bâtiments positifs, donc qui sont producteurs d'énergie, etc. Donc il faut, là encore, ça passe par des choix politiques, ça passe par une espèce de prise de conscience. Il faut que notre modèle centralisateur évolue et aille vers des transferts qui viennent au niveau des territoires, au niveau du local. Il existe des solutions. Il y a des tas de brevets qui sont maintenus sous le coude et qui ne sortent pas, on n'utilise pas. Il y a des solutions qui permettent de faire des productions énergétiques. Je donne un exemple, la géothermie. Il existe des solutions pour aller encore une fois vers, non pas le toujours plus, mais engager un processus qui nous conduise vers la sobriété et puis qu'on revienne sur des modèles locaux plutôt que des domaines centralisateurs, quoi. Donc, des solutions existent. Il y a d'autres pays qui ont déjà engagé des changements depuis pas mal d'années. Il faut que la France en tire les leçons et puis fasse évoluer son modèle. Alors, bien sûr, ça ne sera pas en claquement de doigts et puis en l'espace de 3 ans, mais ce sont des politiques qui, sur 10 ans ou sur 20 ans, doivent nous conduire vers, encore une fois, plus de sobriété et puis une décentralisation des moyens de production, parce qu'une habitation, on peut très bien l'équiper de panneaux solaires, de panneaux photovoltaïques, de systèmes qui permettent d'être moins dépendant d'un système central, quoi.
Donc permettre finalement à chacun d'être en capacité d'avoir recours à ces technologies en les rendant plus simples et plus accessibles, parce qu'elles sont parfois encore relativement chères. La question de la santé au travail, faut également mobiliser du côté de la question de la santé au travail. C'est un levier à activer, selon vous, pour sensibiliser puis faire changer les choses.
Sur le sujet des ondes, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc l'État a pris parti d'orienter l'observation, on va dire, au monde du travail. C'est-à-dire que c'est à l'employeur d'assurer la santé de son salarié au travail. Donc, la France a suivi en cela donc une directive européenne. Et a donc orienté, on va dire, et a mis toute la responsabilité, on va dire, sur l'employeur et également sur les médecins du travail qui sont censés être un peu les observateurs, on va dire, des
bonnes pratiques ou des mauvaises pratiques.
Voilà. Simplement derrière se pose la question des moyens. Donc aujourd'hui, les moyens qui sont accordés sont extrêmement faibles, pour pas dire nuls, quoi. Donc là encore, il y a un choix, un parti pris qui a été pris par une orientation qui a été prise par l'État pour dire voilà, on laisse le sujet dans les mains du médecin du travail et puis et du chef d'entreprise qui, bon, le chef d'entreprise, lui, sur les ondes, il n'y connaît pas grand-chose, hein, il est comme tout le monde. Donc on lui laisse cette responsabilité-là, voilà. sans se poser la question, toujours pareil, des moyens, de la formation, de l'information, etc. Donc il faut se préoccuper de la santé des gens dans le domaine du travail, ça c'est une évidence, mais il faut aussi s'en préoccuper dans le domaine du transport, quand ils vont sur leur lieu de travail ou pour leur loisir, et puis quand ils sont chez eux également, parce que le lieu de vie, ça doit quand même rester un sanctuaire, où si on subit, je dirais, au quotidien les agressions extérieures, il faut que le lieu de vie soit un lieu de repos, un véritable lieu de récupération, et aujourd'hui, on peut quand même constater que le lieu de vie, ça devient un petit enfer. Notamment, là, je reviens sur le système Linky, c'est quand même un truc phénoménal. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a, sans qu'il y ait une obligation pour obliger les gens à accepter le compteur Linky, on leur a imposé, je dirais, souvent avec des moyens de voyous, hein, de sauvages, un compteur, qui n'est pas un compteur, hein, enfin, ou plus exactement, il fait du comptage, mais il ne fait pas que ça, il ne fait surtout pas que ça. Il fait tout un tas d'autres opérations, notamment la collecte de données. Mais surtout, pour moi, le point central, c'est qu'en fait, il introduit à l'intérieur du domicile une pollution électromagnétique à laquelle il est quasiment impossible de se soustraire. Ou alors, les seuls moyens de s'en soustraire, c'est de couper, en fait, de faire disjoncter son alimentation électrique, ou alors éventuellement de poser des filtres dont l'efficacité n'est pas toujours optimale. Hein. Des fois, ça marche, les filtres, des fois, ça ne marche pas du tout. C'est quand même assez incroyable qu'on mette un système qui va 24 heures sur 24 utiliser votre réseau, vos fils électriques, en fait, c'est comme si vous aviez une antenne en permanence chez vous, qui toutes les... de manière cyclique, va vous balancer des ondes. Alors là encore, on revient sur les histoires de doses. C'est, certes, c'est extrêmement faible, mais bon, c'est démontré qu'en fait, ces ondes-là, dans certaines situations, c'est juste un vecteur de poison, quoi. Ça perturbe la santé des gens, quoi.
Une toute dernière question, Christophe. À quoi ça sert de couper mon Wi-Fi quand mon ordinateur est capable de détecter parfois jusqu'à 8 signaux Wi-Fi à proximité sur lesquels il serait en mesure de se connecter si on a la clé. Même si on n'arrive pas à se connecter, l'onde, elle arrive, puisque l'ordinateur la retrouve. À quoi ça sert d'arrêter mon compteur Linky si mes voisins, voisins de palier, voisins d'étage, si je suis en habitat collectif, restent finalement avec leur compteur?
Ça, c'est aussi un problème de fond. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où je dis que l'État est assassin. C'est comme si, alors l'image peut paraître excessive, mais c'est comme si, en fait, on mettait entre les mains de tout le monde un revolver et un pistolet chargé, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on nous donne des armes et on ne sait absolument pas s'en servir. On nous a jamais appris comment ça fonctionnait, comment éventuellement l'arrêter. Et puis, là aussi, ça passe par l'éducation. Ça devrait passer par l'éducation, par de la formation et surtout par de l'information, quoi. Et arrêter l'hypocrisie, quoi. Arrêter de dire que le monde du tout connecté, c'est le bonheur, c'est le pied, enfin, qu'on ne peut pas faire autrement, etc. Tout ça, ça nous conduit, en fait, vers une espèce de monde de fantômes, hein, puisqu'en fait, on n'a plus que des relations virtuelles, hein, au travers d'un écran, alors qu'on sait, là encore, il y a des études qui ont démontré que un enfant qui a commencé à jouer avec des écrans, en fait, il perd la spatialisation. C'est pas correctement interagir avec son environnement, puisqu'il n'interagit pas avec son environnement, il interagit dans un environnement plat et pas dans un environnement en plusieurs dimensions. Il n'interagit pas avec l'humain, il ne se confronte pas aux branches d'arbres, aux griffures, à la pelouse, à l'air, etc. C'est purement tactile. Et donc, cérébralement, bah, il n'y a pas d'autre mot, il devient con. Le gamin devient débile, quoi. Il ne sait pas bien écrire, il ne met pas les lettres dans les bonnes cases, il dépasse les cadres, etc. Donc, on génère des abrutis. Voilà. C'est ça le monde des ondes. Ça peut paraître excessif, mais il faut se dire que ailleurs, dans d'autres pays, à commencer par celui des États-Unis, eh bien, il y a des écoles, hein, notamment, je pense à la Silicon Valley, où en fait, les enfants des cadres des grandes entreprises qui sont dans les technologies, eh bien, jusqu'à l'âge de 12-14 ans, eh bien, ils suivent des études et il n'y a aucun écran. Ça se passe avec des êtres humains. Voilà. Donc, quand on sait ça, on se dit que la solution, je dirais, c'est qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter l'enseignement avec les tablettes, avec les écrans, avec les ordis, etc. Tout ça, c'est de la flûte, quoi. Je veux dire, ça conduit par un abrutissement général, par des générations d'imbéciles. C'est tout.
Merci, Christophe, et puis bonne conférence.
Merci.
La puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 107.